des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Jean-François Lisée et Marie Montpetit sont avec moi. Bonjour à tous les deux. Dernière heure, ça vient d'être déposé. C'est cette réforme du droit familial tant attendue. On peut dire que depuis Éric et Lola en 2013, on avait hâte que le gouvernement s'attaque à ce gros morceau. C'était vraiment nécessaire. Là, c'est sorti depuis quelques minutes. Votre réaction à chaud, Marie et Jean-François?
Oh ben écoute, pour être très transparente avec toi, Isabelle, je vais attendre d'en prendre connaissance des détails avant de la commenter plus précisément là, mais je suis très curieuse de savoir ce que ça vient encadrer. Peut-être tu peux nous en dire plus si tu en as pris connaissance.
Il y a un nouveau terme qu'on vient d'officialiser et c'est la notion d'union parentale. Et ça, je trouve ça intéressant, ce terme-là. Évidemment, comme tu dis, on va en parler, bien sûr, au cours des prochaines années, Mais Jean-François, je pense que c'était important de s'attaquer à ça, là, de parler de droit de la famille au Québec, là.
Oui, tout à fait. Puis il faut saluer le travail du ministre de la Justice parce que ça fait plusieurs années que c'est un chantier qui attend un aboutissement important parce que la majorité des couples au Québec, tu sais, Isabelle, sont en union de fait et la protection au moment de la dissolution de l'union ou du décès d'un des membres du couple sont beaucoup moins grandes que lorsqu'on est marié. Donc, les Québécois font le choix de ne pas se marier. C'est leur choix. Maintenant, est-ce qu'on peut mieux protéger leurs droits? Par exemple, lorsque quelqu'un décède dans un couple d'union de fait, la personne, sauf s'il y a un testament qui a prévu de donner à l'autre membre du couple, ce n'est pas le cas légalement. Là, maintenant, ça va être corrigé. Si dans la dernière année, il y a eu une vie de couple, ça va être la personne survivante qui va hériter principalement. Aussi, de faire en sorte que s'il y a eu un enrichissement, donc si quelqu'un a travaillé dans l'entreprise de son conjoint, il l'a enrichi et qu'au moment de la dissolution, il n'y a pas de versement. Il y a un recours pour enrichissement unilatéral. Il y a aussi le fait que la maison familiale, alors lorsqu'on est marié, la maison familiale, surtout lorsqu'elle était acquise pendant que le couple existait, appartient aux deux. Mais ce n'était pas le cas. Peu importe le nombre de décennies où le couple de fait a existé, ce n'était pas le cas. C'est celui qui avait son nom sur le contrat, qui était propriétaire. Mais là, ça va être modifié. Donc, comme dit Marie, on va attendre de voir les détails, mais en tout cas, les premières indications qu'on a de la lecture du dépôt du projet de loi au début de la période des questions ce matin, moi, m'encourage en sens que des réformes qui étaient attendues sont en train d'être déposées. Elles seront discutées, et certaines d'entre elles peut-être très vivement d'ailleurs.
Mais c'est pour ça que je disais, je pense que tu sais, dans ce genre de projet de loi-là, le diable est toujours dans les détails. Donc, il y a plein de particularités juridiques, mais c'est sûr que c'est une réforme qui était un, très attendue, deux, très pertinente, surtout là, comme tu le mentionnes, Jean-François. Je pense qu'on est la province au Canada, où il y a le moins de gens qui sont mariés. C'est un état de fait. C'est comme ça. Je pense que c'est certainement nécessaire d'ajuster le droit aussi pour. Tu sais, j'entendais des exemples, par exemple, des conjoints qui feraient le choix de rester à la maison dans une union de fait, de s'occuper d'un enfant malade, par exemple. Donc, de s'assurer qu'il y ait une certaine équité dans le fond juridique qui puisse de reconnaissance aussi, comme c'est le cas dans un cas marié, là.
Et il y a toute la notion, on a beaucoup parlé de, justement dans le cas de l'affaire Éric et Lola en 2013, il y avait toute cette notion de patrimoine, mais aussi d'enrichissement qu'on disait injustifié dans le cas où il y avait un conjoint. Souvent, c'était la conjointe qui était désavantagée financièrement par rapport au patrimoine. On a eu des histoires au Québec où, on le sait, les femmes traditionnellement étaient plus à la maison, même si ça semble aujourd'hui, en 2024, histoire peut-être un peu plus éloignée parce que les jeunes couples veulent peut-être différemment, mais il y a certaines Québécoises qui l'ont vécu durement, c'est-à-dire qu'elles se séparaient ou ils se séparaient, le couple était chose ancienne, et la femme se retrouvait avec absolument plus rien, plus de maison, plus de voiture, plus rien. Puis il fallait se battre pour les allocations familiales. Et est arrivée la loi sur le patrimoine familial qui a voulu corriger ça, mais il y avait cette notion aussi qu'on pouvait s'en soustraire pendant une certaine période. Là, de ce que je comprends aussi dans ce projet de loi du ministre Simon-Jolin Barrette, il y a aussi la notion de dire on va peut-être pouvoir quand même avoir aussi la possibilité de se soustraire à l'union parentale. Mais enfin, faudra voir, mais il y a quand même des choses intéressantes qui viennent beaucoup jouer pour le bien des enfants. Et ça, pour connaître Maître Alain Roy, je pense que c'était important pour lui. J'avais l'occasion d'en parler avec lui il y a plusieurs années, là, de cette réforme. Pour lui, c'était protéger les enfants dans le couple qui n'existe plus. Mais qu'est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce que les enfants deviennent une marchandise? Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Marie, Jean-François, là-dessus?
Ben, il y a aussi un élément, moi, que j'ai hâte de voir quels sont les détails. Il y a, par exemple, au moment de la dissolution du couple, c'est vrai dans les divorces, mais là, il y a des recours judiciaires nombreux où le membre du couple qui a plus, disons, d'agressivité ou d'argent va harceler judiciairement l'autre membre du couple. Mais là, il y a une disposition sur le harcèlement judiciaire, c'est-à-dire que lorsque c'est trop, on pourra intervenir à un point. Ça, j'ai hâte de voir comment ça va se déployer parce que c'est complètement nouveau, mais je n'avais pas vu ça. Maintenant aussi, l'important de respecter la liberté de choix. Mm-hmm. Et donc, c'était la même chose pour le patrimoine.
Ouais.
Si nous, on a décidé qu'on était complètement individualiste puis on veut aucune de ces garanties-là, on doit pouvoir se retirer de ce que l'État essaie de nous imposer. Mais l'État doit donner un filet par défaut. Si vous n'y avez pas pensé, si vous ne voulez pas en discuter, par défaut, on va protéger les deux membres du couple, donc souvent la femme qui, sinon, ne serait pas. Parce que j'entendais une avocate ce matin, les Québécois ne veulent pas discuter de ce qui va se passer au moment de la rupture.
C'est sûr.
Maintenant, ils le font au moment du divorce, puis il y a des médiations, puis tout ça, mais c'est très difficile de demander à des gens qui sont en union de fait. Écoutez, vous allez vous asseoir, vous allez écrire un contrat au cas où vous vous sépariez. Ils veulent pas faire ça. Alors, c'est effectivement.
Il n'y a personne qui veut ça quand tu es en amour.
Mais les gens veulent pas être mariés de force non plus. Donc,
non.
C'est d'avoir un certain équilibre entre protéger ceux qui en ont pas discuté, puis pas forcer ceux qui veulent pas nécessairement se retrouver par défaut dans une situation de mariage. Donc, faire un opting out, effectivement, de dire, ben, même si on décide d'être conjoint de fait, qu'on vive ou qu'on ne vive pas ensemble, voici ce sur quoi on s'entend, puis comment on veut se gouverner. Mais des fois, c'est vrai qu'entre un début de relation, un milieu de relation, une fin de relation, on n'a pas toujours la même lecture.
Non, exactement. Puis, il y a toute la notion de fiscalité et tout, des allocations familiales. Je ne suis pas sûre que ça fasse partie de ce projet de loi, même si au Québec, il y a encore des gens qui pensent que, par exemple, si tu es conjoint de fait, puis que l'autre a un REER, au moment du décès, le REER est roulé au conjoint. Toutes ces notions-là, or c'est faux.
Ça va
là.
Avoir le mérite, Isabelle, de tu sais, il y a la conférence de presse de Simon-Jolin Barrette dans quelques minutes aussi. Donc, ça va avoir certainement le mérite, la discussion autour de ce projet de loi-là, de faire un peu de pédagogie aussi, de lancer des discussions. Il y a peut-être des gens qui vont aller en disant « Ouh, je pensais que j'étais couvert là-dessus. Je pensais que le fait que ça fasse 15 ans qu'on vive ensemble, qu'on ait des enfants, qu'on soit dans la même maison ou qu'on soit pas dans la même maison. Des fois, être conjoint de fait sans être dans la même maison, on pense que c'est pas la même situation, ça va peut-être permettre de renseigner aussi à ce niveau-là et de soulever des questions pertinentes.
Très bon point. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Isabelle.
Merci.